Raconte-moi notre histoire. Vous écoutez le premier balado historique sur le village de Tête à la Baleine. Épisode 3. S'ancrer à Tête à la Baleine. Installation des premiers colons et formation du village. Un avertissement avant d'aller plus loin. Dans cet épisode, le vocabulaire utilisé dans certaines interventions liées aux Autochtones, aux Innus et aux Inuits pourrait blesser certaines personnes. Ces termes n'ont pas été censurés dans un soin de préserver l'authenticité des paroles d'aînés du village, aujourd'hui décédés. Ce sont des communautés autochtones, Inuit et Innu, qui fréquentent d'abord le Nitassina, ce que nous appelons la côte nord. Plusieurs habitants et habitantes en ont d'ailleurs constaté des traces à Tête à la Baleine, comme c'est le cas d'Amédée Marcoux, alors qu'il cueillait de petits fruits.
Et à côté des fois, on allait sur les îles, pour aller graines, écoutez, on voyait des piles de roches, on se demandait, qu'est-ce que c'est qui t'a ça, on t'a sauvé, c'est les Esquimaux qu'il y avait, dans le temps avant, pour les nuits, j'ai vu trouver des eaux du marin, tu sais, au travers de ces roches-là, des fois.
Ouais. Comme ça, ça sera des Esquimaux qui seraient venus avant que ce soit habité.
C'est ça qu'elle a habité. Commencer pour moi la même idée.
Des siècles avant la colonisation, des explorateurs et des pêcheurs européens puis canadiens-français viennent aussi et visitent l'archipel d'îles face à la côte pour la chasse et la pêche de façon saisonnière. Elzéar Mercier raconte ce qu'il en savait.
Jean Cartier est venu ici, puis c'était un bateau à voile. Hein? Mm-hmm. Hein? C'était les pauvres bateaux, ça se gouvernait pas. C'était un gouvernement arrière, puis ils ont venu ici avec ça. Dans les Français qui ont venu établir les places, quand ils ont venu prendre le Canada, les Français, ils étaient là, Jean Cartier ou bien d'autres, qui ont venu prendre le Canada, ils étaient là. Vous voulez penser que c'était tous les Indiens qui étaient ici, là, d'un bout à l'autre, hein? Les Indiens qui étaient d'un bout à l'autre. Ils étaient là, les Français sont venus ici. Ils ont venu, ils ont tout ôté, ils ont gagné. C'était dans les... Excusez-moi, parce que moi, ben, des fois, je manque des mots. Moi,
les...
Les vieux, quand ils ont venu, ils s'attendaient qu'il est venu du monde avant ça. Hein? Mais c'était dans les Français. Hein? Aussi bien comme on a cherché cet automne, là, hein? On a cherché cet automne des emplacements des vieux Français, hein? Puis, les vieux Français avaient établi la place, avant ça.
Après ces voyages saisonniers pour les pêches, commence la période de l'installation permanente de la population au village de Tête à la Baleine. Cela remonte à 200 ans. 200 ans, assez précisément en date de l'année 2020-2021, alors que ce balado est enregistré. C'est effectivement en 1820 que la Compagnie du Labrador perd son monopole et qu'elle vend ses postes de pêche. Comme nous en avons déjà parlé, le premier à s'établir au large dans une installation de pêche permanente servant aussi d'habitation, c'est Michel Kenty. La date précise de la construction de l'installation demeure à confirmer, mais elle oscille entre 1822 et 1824. Son frère William le rejoindra plus tard comme occupant et propriétaire. L'île est habitée d'abord par Michel Kenty et porte aujourd'hui son nom, comme une trace de son passage. Une île dont le choix avait été motivé par la proximité des ressources, mais qui peut aussi paraître hostile, comme ce fut le cas pour l'anthropologue José Maillot lors de son passage ici dans les années 1960.
Je suis pas allée souvent, moi, sur l'île du Canté. Je suis allée... c'était une expédition hein, d'aller jusque-là, parce que c'est très à l'extérieur de l'archipel. Hein. C'est comme la limite là avec le golfe. Là. On est en plein golfe Saint-Laurent, là, rendu là.
Belle Canté, c'est une belle place.
Oui.
Les îles Canté, c'est dans, pas mal dans les premiers.
Oui, ça a l'air que c'était la première plage, je pense.
Oui, c'était la première
plage. Il y avait une église, là, l'île Canté.
Tout était là au début. Il y avait une grande chaîne pour faire les futailles, là, pour mettre le lumarin.
Ça, c'était les Canté qui étaient là.
Oui, oui.
Moi, ça m'étonne à quel point les choses changent. Puis on pourrait pas jamais le dire, nous autres, qu'il y avait quelque chose là.
Mais non, parce que les bâtiments existent.
Toute la nature a repris sa place.
Il n'y avait pas de fondation de ciment.
Nous autres, Anne-Franc, on était là pour préparer le cimetière de l'île Canté. C'était tout du bois.
Puis
tu sais comment c'est fait, là? Mais on a pêché au Limorin, nous autres, après ça. Puis ça, la cabane qui reste là, la petite cabane. Puis tu t'en vas en gagnant au sud-ouest, là, tu vois, comme ça fait le creux pour le cimetière. Puis long du mont. Bon, ben là, ça fait, puis le foin, il t'a poussé, là. Puis on s'est mis à brûler le vieux bois. Puis là, le feu a pris dans le foin. Puis là, tu voyais toute la formeur des bâtiments qui étaient bâtis là. Mais il était tout, pour moi, c'était pour l'hiver, à l'abri du mont, là. C'était pas... Puis si tu te bâtis sur la roche, c'est 10 fois plus frais. Hein? Puis là, il était tout en gagnant dans le dépendant du monde. Mais là, pourtant, pour la pêche, ça devait être une place rough. Ça. C'est ça. Tu vois ce qu'il avait déplacé les affaires.
Je sais pas pourquoi il avait choisi cette île-là.
Ça se faisait de même, la pêche. Hein?
Parce que c'est au large.
Oui, mais ça se faisait de même, la pêche. La
En plus du poste de pêche situé sur ce qu'on appelle aujourd'hui l'île Canté, dans les journaux en 1850, on retrouve les noms des postes de tête à la baleine de Kikapoué, île ouest de tête à la baleine du Petit Mécatina, île est de tête à la baleine du Petit Mécatina, rivière du Petit Mécatina, grosse île à goéland du Petit Mécatina et île du Petit Mécatina. Mécatina, de l'Inuaemon Makatino, qui signifie « il y a une chaîne de montagnes » ou encore « c'est une grosse montagne ». Dans les années 1850 et jusqu'en 1860, ce sont des pêcheurs de loups marins ou de morues, des chasseurs qui s'installent avec leurs femmes et leurs enfants sur des îles dont quelques-unes se trouvent précisément dans l'archipel de Tête à la Baleine. Dans un souci d'accès aux ressources, les gens s'installent loin les uns des autres. Cette partie de la côte accueille donc une population éparpillée. En 1853, le journal montréalais La Minerve dénombre dans la région de Tête à la Baleine une dizaine de regroupements éparpillés, constitués de moins de 10 personnes, hommes, femmes et enfants. Ces premiers habitants sur l'archipel ont vécu un quotidien très difficile, comme nous le raconte Gilles Monger, ce qui motive certaines familles à chercher refuge sur la terre ferme.
Quand les gens ont commencé sur les îles, le peuplement sur les îles, ils ont trouvé ça difficile. Puis les derniers, là, finalement, ça s'est perdu graduellement. C'est que sur les îles, là, l'hiver, c'était l'eau douce. Il y a des îles, c'était correct, mais il y en a qui c'est difficile d'avoir de l'eau douce. Il fallait qu'ils se procurent le bois, la nourriture, il fallait qu'il y ait toutes des réserves. OK, il y avait les oiseaux migrateurs, l'ammoniaque, mais puis après ça, le loup marin. Mais comme le lièvre, toutes ces choses-là, il ne l'avait pas. Il était exposé au grand vent. Puis, il était pour, souvent, comme cette année, c'est pas trop pire. Mais il y a des années, il aurait pu être exposé pendant un mois et demi, avec pas moyen de rejoindre le rivage, de venir voir les autres, parce que les conditions de glace, puis la même chose arrivait au printemps, pour le gel et dégel, période du gel et dégel qu'on appelle.
On entre chez un couple du village et tout de suite, on nous propose d'aller regarder l'arbre généalogique du côté des Mongers.
C'est mon arrière-grand-mère, c'est pas si loin que ça.
Ce qu'il faut savoir à Tête à la Baleine, c'est que la majorité de ceux et celles qui y habitent encore sont solidement enracinés en sol baleinois. Leurs familles y sont bien souvent parmi les pionnières, parmi celles qui ont contribué à fonder le village. Ces familles viennent d'abord de Berthier et des paroisses à proximité, comme la famille d'Amédée Marcoux du côté de son père.
Puis, ton grand-père, lui, tu sais pas de quelle place qu'il venait, lui, le père de ton père, là, d'où qu'il venait.
Il vient de Berthier, lui.
De Berthier. Puis, quand il est venu, il était marié, lui, dans ce temps-là. Il était venu avec sa famille.
Mon grand-père, lui, c'est son père à lui qui venait de Berthier.
Tu sais comment il s'appelait, ton grand-père?
Il s'appelait Antoine.
Antoine Marcoux. Puis, le père de ton grand-père, tu sais pas comment il s'appelait, lui?
Non. Lui, par exemple, là. Mais là, je ne sais pas comment ça s'appelle.
Ses origines de la région de Bercy-sur-Mer expliquent que, contrairement à la majorité des autres villages de la Basse-Côte-Nord, Tête à la Baleine est francophone. On pense aux familles de Blais, de Marcoux, de Nadeau, de Mercier et de Morissette. Certaines familles de l'île Jersey s'installent ensuite et elles se convertissent au catholicisme après quelques années de vie au village.
Dans ce temps-là, ici, Tête à la Baleine, c'était toutes des catholiques, il n'y a pas de protestants.
Ah, c'était tous des catholiques. Il n'y avait pas de protestants. Nulle part.
Parmi les familles jerseyennes, on pense notamment aux Mongers, aussi dit Mongers. Une famille en provenance de Saint-Michel-de-Bellechasse est aussi répertoriée, la famille Bilodeau. On ajoute au portrait les Modena, les Fortier, les Baudouin, les Joncas et les Dumais, à Tête à la Baleine et ailleurs aussi en Basse-Côte-Nord, qui seraient venus rejoindre d'autres pionniers. Aussi, on retrouve les noms de Jean Hamel, puis de André Wells, dit Galibois, en 1855, qui auraient successivement habité Pointe-à-Maurier. En 1860, une vague de Terneviens et de Terneviennes s'installe en Basse-Côte-Nord, notamment à Tête à la Baleine. Ce sont les familles Anderson, Jones et Green. Si Tête à la Baleine se construit comme un village francophone et catholique, en écoutant attentivement des aînés discuter sur de vieilles cassettes, on peut entendre des pointes d'anglais. Prêtons l'oreille à Amédée Marcoux.
Mais lui, en dernier, là, il y avait un moteur dans son... Dans sa voilette. Dans sa voilette. À cause de... Il est mort, quoi? Was it three died at the same time? A boy that got gas, Murkat Mershe. You remember that? Oh yeah, I can remember that. Il y avait un gars de vie de mouton, sa femme.
L'anglais a en fait toujours pris part au quotidien des familles, comme en témoignent tour à tour Douglas Green puis Robert Nadeau.
Tête à la Baleine, il n'y a pas beaucoup de monde qui ne parle pas l'anglais à Tête à la Baleine. C'est francophone, là, mais le monde, une partie du monde peut parler l'anglais. Un ou l'autre, moi j'ai été élevé, ma mère parlait le français, puis elle parlait l'anglais. Puis mon père, lui, quand il est venu chez nous, il parlait juste l'anglais, mais en l'année, il parlait français aussi. Ça sortait un peu cute des voix, mais en tout cas.
Mon père et ma mère elle était propre en anglais aussi, tu sais, elle avait une assez bonne base. Fait que s'il voulait dire quelque chose qui n'était pas de nos enfants, nous autres les enfants, mais il parlait en anglais, nous autres on tendait l'oreille, on essayait de... Puis vu que notre... Tu sais, je sais pas, on dirait que ça coule un peu dans notre sang aussi, là. Ben on a appris peut-être assez vite aussi.
Si Robert Nadeau dit que ça coule un peu dans son sang, l'anglais, c'est parce qu'une partie de la population ici est anglophone, comme c'était le cas de la famille de Robert, justement.
Toute la famille de mon père, là, il n'y avait pas un mot français, là, c'est l'anglais dans la maison. Mon grand-père parlait anglais, puis sa femme, notre Saint-Augustin, c'est juste l'anglais aussi. C'est pas moitié, mais je dirais le tiers. Il y avait le tiers, c'était des familles anglaises. Je vais chez mon oncle, il ne me parle pas français, c'est juste l'anglais aussi. J'allais chez ma tante Madeleine ou chez Aimé, sa sœur, juste l'anglais aussi. J'allais chez Fred Nadeau dans le temps, là, qui était à ce bois ici du pont de la rivière de l'Est, là, où que Yolande est là. C'était juste l'anglais aussi. Chez Wally Nadeau dans la rivière du Ouest, juste l'anglais. Il a travaillé avec moi, Wally Nadeau, juste l'anglais, pas un mot de français. Ouais, fait que je peux. Ah oui, ma tante Madeleine, ouais.
Madame Bertha Fowler-Nadeau, une anglophone originaire de Capstan Island et déménagée au village depuis 1950 environ, nous partage comment elle vivait cette réalité.
When I came here first, well, I didn't go in the village very much because everything was French. Well, I said everything was French, but they could talk English a bit, best way they could, but they always was like that. But now everything talks English, I think. Everyone was friends, I never had no trouble. No. I had a lot of good friends. I had, the family used to live up here again. Ernst Sampson. He had a big family. Just next door. Yeah. And, it's really nice. But just like your own people. He could talk English and everything.
Ainsi, on constate que malgré la distance linguistique, des liens vont se créer entre les gens vivant à proximité par des efforts de part et d'autre jusqu'à devenir aussi proches que leur propre famille, pour reprendre les termes de Madame Bertha. Un petit village en région éloignée, ça vient souvent avec ce stéréotype-là, celui d'une communauté tissée serrée où on s'entraide. Toutefois, les tout débuts de Tête à la Baleine en sont autrement. La population dans la région est alors certes petite, mais aussi très dispersée sur le territoire, sur les îles de l'archipel. Cet éloignement entre les postes de pêche est nécessaire parce que cela assure de bonnes prises.
Tant qu'ils ont dit qu'ils sont établis, ça s'est établi pour la pêche. Mm-hmm. Parce que moi, c'est à la rame, hein? Puis la trappe, okay. C'est à pied. Il ne va pas tout se mettre dans les bouchons. Là.
Les conditions de vie difficiles, combinées à cette dispersion, génèrent une logique du chacun pour soi. Les efforts se rassemblent pour la première fois autour de la construction de la chapelle sur l'île Providence en 1895. On assiste alors à l'apparition d'un nous et d'une conscience communautaire au village qui se fortifie entre 1900 et 1929 alors que les échanges sociaux, les relations commerciales et l'interdépendance apparaissent entre les familles du village. Dans ces années-là, les quelques familles sont installées dans différents hameaux. Elzéar Mercier se rappelle encore le nombre de maisons et leurs habitants, entre autres dans le hameau où il vivait, le Ruisseau, situé en face de la baie Plate.
Des maisons, on l'a trouvé depuis ta connaissance, quand tu étais jeune, comment de maisons à peu près qu'il y avait à toi et comme depuis?
Quand j'étais jeune, moi, il y avait à peine en 25 maisons. 25 maisons.
Ça, c'était-tu juste ces statues avec le portage d'hiver? Puis,
le portage d'hiver, ici dans le Rousseau, dans les Dagenes, il y avait 5 maisons.
5 maisons.
5 maisons, quand j'ai commencé, dans les Dagenes, 5 maisons.
C'est quel âge que tu as, là, Star?
J'ai 71, là, mort, 72, le 27 de janvier.
Ça fait, on peut dire à peu près qu'il y a 65 ans de ça, il y avait 5 maisons aussi.
Moi, la première année que j'ai resté ici, dans le Rousseau, j'ai pas resté restable, je pêchais le marin. Il y avait 5 maisons dans le Rousseau. Il y avait nous autres, les femmes M. Jacob, les femmes M. Dumanger. Ça, c'est toutes les vieilles maisons qu'il y avait.
Il y avait aussi le hameau de Souriabane. Amédée Marcoux parle des débuts de ce hameau et des premiers à y avoir bâti des maisons.
Il y en a quatre. Il y avait deux grands-pères, il y avait Jo, mon grand-père, puis il y avait mon poignon, et puis je suis mon père, le père des
petits Marcoux.
Mm-hmm. Lui, le bonhomme vert, il est resté à Souriabane. Il y a eu ce que de faire mon père Fred Marcoux de Star, à cause de
c'était son
choix. J'ai vu le premier que bâti là.
C'est Joey Bag
à bonhomme, Alfred Marcoux, là, mon oncle, l'oncle de mon père, là, le frère de mon grand-père, il s'est marié avec un de ses filles. Ça fait qu'il est resté là.
C'est comme ça que sur Yabane l'avenue, qu'il y a plusieurs maisons.
Mais il n'y avait pas bien des maisons. Il y avait celle-là, puis il y avait mon défunt grand-père. Et puis, en commencement, ça, il y en avait deux. Puis après que le défunt père était marié, bien, c'est attendu, il s'est bâti une maison.
Il y avait trois maisons.
Cet endroit se situe à moins de 15 km du centre du village actuel.
Où c'est,
ce souriens-là? Qui a été élevé. Ah,
moi qui ai été élevé là.
Ça, c'est quoi? C'est-tu sur une île?
Non, c'est à terre.
C'est 5000, ça veut dire l'autre bord de la baie qui est au bord de la Dompe.
Ouais, là, vous passez la Grande Coupe, là, qui appelle?
Ouais.
Il y avait des par là.
Ouais.
Il y avait déjà descendu en bas.
Ouais.
Bon, ben, quand vous avez le premier portage, vous prenez pour prendre le lac, là.
Ouais.
Le grand lac, là, hein. Ben, mon poignon était bâti justement sur la pointe, lui, dans l'angle, dans le côté ici. Puis les autres étaient bâtis à l'autre pointe. J'ai vu une petite boule, là, qui est là autour, avant de prendre la pointe pour rentrer dans le fond de la baie, là. C'est bon. Ouais. Comme une petite île.
Ouais.
J'ai tout des rocs. Je sais pas, mais on va appeler ça la boule.
Ouais.
Bon, ben, on reste là dans le trou, nous autres.
Ici, les gens prononcent Souriabane.
Souriabane, tu sais rien, ce mot-là.
Ça, c'était un nom sauvage.
Tu ne sais pas pourquoi il y a un buisson de main?
Non, je ne sais pas.
Le nom était là quand j'étais arrivé.
Ouais. Je dois appeler ça souris avant.
Tu sais ce que ça veut dire?
Non. Moi, je ne sais pas ce que ça veut dire. Souris avant.
Il s'agit en fait d'un mot d'origine inou, dont la signification n'est pas certaine, mais dont la prononciation se rapproche du mot argent ou du terme endroit où il y a de l'argent. Un autre hameau bien connu où on retrouve l'un des cimetières de Tête à la Baleine, c'est le portage d'hiver, où Gilles Monger a d'ailleurs grandi.
Quand je suis venu au monde, ça va faire bientôt 113 ans, mais on demeura au Portage du Vert, qui est à 5 milles à l'ouest d'ici, où il y avait un regroupement plutôt famille, un groupe de Montjuïc et un groupe de Mercier.
Okay.
Puis une famille Marcoux, c'était... Puis c'était avant que moi je sois d'âge pour aller à l'école, il y avait une école là. Le Portage du Vert était une partie qui était directement le petit Mécatina, mais il y avait aussi une partie... De l'autre côté, l'île, où il y avait des familles, surtout les Merciers étaient tous sur l'île, et l'école était là aussi. Il y avait un pont qui reliait les deux.
Il y avait en plus d'autres petits rassemblements.
Moi, mon grand-père, mon jeu, il était au Portage-Gilet, là.
Ouais.
Et ensuite, il y avait la rivière des Jones, c'est pas, là. La famille des Jones, là, c'était plus à l'île que ça.
Puis il y avait les Galichons qui restaient en passant à la Grand-Anse parce que. Mon père et autres, ils ont été élevés à la première anse, mettons, l'autre base du Mont-André, le monde qu'on voit là, ouais. Le Mont-André. Mais la première clé de bois qu'il y a là, c'est là qu'il restait, eux autres, il y a trois, quatre familles là. Puis dans l'autre anse qu'il y a là, on l'a placé à la grande anse, c'est les Galichons qui restaient là. Bill Galichon, puis son père s'appelait Joe Galichon, qui était, je pense, deux, trois familles.
On passe aussi au village des Nadeaux, à la rivière Champagne et à cet endroit appelé Chez Menon.
Chez Menon,
à partir de 1930, on observe une augmentation des familles qui se rassemblent face à la baie Platte pour graduellement former le village qu'on connaît aujourd'hui. Le rapprochement des maisons se poursuit jusqu'en 1961, encouragé par divers incitatifs promus par les représentants de l'Église catholique, comme en témoigne Amédée Marcoux.
Monseigneur Labrie nous a tout fait démarrer ici. Pour le monde de l'école.
Effectivement, la construction de l'école et du couvent en 1956, mais aussi un peu avant la construction de l'église du village sur la terre ferme en 1949, signe le regroupement de la population, encouragé par le père Dionne, entre autres. Ça solidifie aussi le mode de vie qui s'était graduellement transformé en quelque chose de plus communautaire.
Les habitations de l'époque, il n'y a absolument rien qui paraît. Ça, puis grand-père Dumais, il y a le salage du grand-père Dumais, je crois qu'il est encore debout, parce que lui, exceptionnellement à l'époque, il y avait un salage de ciment.
Le bois de toutes ces maisons, dispersées dans les hameaux d'autrefois, fut réutilisé.
À cette époque-là, il n'y a pas grand-chose qui se perdait. Parce que je me rappelle, moi, j'avais quoi? J'avais une dizaine d'années, 10-12 ans, puis moi, un peu plus jeune, puis Monsieur Joe Mercier, quand il a abandonné le havre, qui ne retournait plus là pour la pêche. La maison, il avait donné à papa s'il voulait ramasser le bois qu'il avait pas soigné, puis on allait ramasser de la planche là, pour les bâtisses, ces choses-là.
Aujourd'hui, Tête à la Baleine compte une centaine d'habitants. Il s'agit du résultat d'un dépeuplement sur des décennies, dont Robert Nadeau nous fait un peu l'histoire.
On a déjà été 650 dans le village, là. C'était toutes des grandes familles.
On parle de quelles années, là?
Dans les années qu'on s'est mariés, nous autres, dans les années 60, 70, 80, ouais. Okay. Après ça, mais quand ça a droppé à la pêche, mais là, les gens ont déménagé à Sept-Îles, là, trois quarts de Tête à Baleine étaient à Sept-Îles. Ouais, c'était toutes des grandes familles, là, 8, 10, 12 par famille. Ça fait qu'il y a une famille qui dégalait, c'était en moyenne 10 personnes qui partaient du village.
Ouais,
c'est ça faisait mal au cœur un peu, là. Ouais, au début, mais. On trouvait ça comme normal, mais après un bout de temps, on a vu que les villages baissaient tout le temps, les diminuaient. Fait que, ouais. Puis, il y en a qui ont déménagé, puis, tu sais, comme des fois, mais c'est la femme qui voulait déménager, ou des fois, c'était l'homme qui voulait déménager parce qu'il savait qu'il allait avoir un job à l'autre bout.
Alors qu'il n'y a actuellement plus que 3 enfants à l'école du village, les gens se rappellent avec nostalgie le temps d'avant.
Époque où le village retentissait de bruit d'enfants, de tous âges, et puis qu'il y avait beaucoup d'enfants au village. C'était pas tous des enfants de cœur, mais il y avait beaucoup d'enfants. Mais ça faisait des bons enfants de cœur aussi.
Ce retour aux racines de Tête à la Baleine permet de constater que le récit de son peuplement n'est pas un long fleuve tranquille. En passant par les dizaines de familles présentes sur les îles du large, l'apparition d'un dialogue entre anglophones et francophones, les hameaux dispersés entre terre et mer et les maisons serrées au cœur du village, on ressent plutôt l'effet d'une houle qui, si on se fie à l'histoire, compte bien poursuivre son mouvement. Dans cet épisode, vous avez entendu les voix de Robert Nadeau, Douglas Green, Bertha Fowler Nadeau, Dan Monger, Delvina Anderson Monger, José Maillot, Gilles Monger et d'autres personnes qui désirent demeurer anonymes. Sans leur participation, ce projet aurait été impossible. C'est pourquoi, en mon nom personnel, mais aussi au nom de toute l'équipe de la radio CJTB, je les remercie chaleureusement. Je tiens à souligner la participation à cet épisode de José Maillot, grand anthropologue dont le décès est survenu alors que ce balado était réalisé. Vous avez aussi entendu des extraits de cassettes enregistrés sous l'initiative d'Yves Gravel dans les années 1970, dont certains audios ont été optimisés par les productions du Garde-robe. Un merci spécial à Lisette Monger de nous avoir partagé ses trésors et à Alain Vallière de nous avoir aidés à les valoriser. Pour découvrir des informations complémentaires sur cet épisode ainsi que des photos d'archives, rendez-vous sur le site web de la radio CJTB sur la page du balado « Raconte-moi notre histoire ».